les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, les mots du protestantisme aujourd'hui se déroulent comme d'habitude en compagnie de Claudette Marquet et vous propose aujourd'hui une discussion autour des grands réformateurs. Alors c'est la suite. Bonjour Claudette Marquet.
Bonjour.
Je rappelle pour les auditeurs de Canal Académie que vous êtes pasteur de l'Église réformée de France et que vous avez dirigé pendant 14 ans le service télévision de la Fédération protestante de France. Alors Claudette Marquet, nous avions déjà entrepris avec vous il y a quelques temps une première émission qui évoquait les grands réformateurs, Jean Hus, Zwingli, Martin Luther surtout. Et aujourd'hui, je vous propose de concentrer cette discussion autour de la personnalité d'un certain Jean Covin, dit Calvin, un Français.
Un Français, oui, Picard, de Picardie. Et non pas Genevois, bien que j'aime beaucoup Genève, et non pas Genevois comme souvent le croit. Eh oui, alors Jean Calvin, lui, il naît pratiquement une génération plus tard que Luther, 26 ans plus tard que Luther. Et contrairement à Luther, ça n'est pas un moine, c'est un laïc. Un laïc qui fait des études en Sorbonne. Et non pas dans une faculté de théologie, bien que la Sorbonne ait une faculté de théologie aussi. Mais enfin, quand même, lui fait du droit. C'est un juriste, Calvin. Et c'est très important pour la suite de son aventure. Et quand il est à la Sorbonne, il entend parler des idées de Luther. Donc, ça l'intéresse. On pense qu'il s'est converti, si je puis dire, au luthéranisme. Ou du moins, il vaudrait mieux dire aux idées de Luther. C'est-à-dire cette importance de l'écriture, de la grâce, de la foi. On pense, mais on ne sait pas dater exactement sa conversion, alors que Luther, on le sait. Et Calvin, quand même, a été gagné assez vite aux idées de Luther. Mais les premiers troubles arrivent en France, parce qu'il ne faut pas oublier que la France avait donc un roi catholique, et même une reine, Catherine de Médicis. On est catholique, c'est la religion officielle. Et la religion avait une telle importance que quiconque dérogeait aux règles de cette religion était menaçant pour le royaume. Et donc, les premières escarmouches ont lieu très vite. En 1525-26, déjà, il y a des confrontations entre catholiques et protestants, parce qu'une partie de la noblesse française se convertit à ces idées nouvelles. Et on a des grandes familles, même comme les Condé, la Rochefoucauld, Coligny, qui se convertissent à ces idées, de sorte que ça fait déjà un double pouvoir extrêmement menaçant. Et malgré les bonnes idées de Catherine de Médicis, malheureusement, il y aura sept guerres de religion. Calvin est pris dans cette tourmente, il fuit Paris, il va à Ferrare, il est recueilli par Marguerite de Navarre aussi, et finalement, il s'en va à Bâle, il se réfugie à Bâle. Et il commence à travailler son grand œuvre qui s'appelle « L'institution de la religion chrétienne ». Et puis, il part à Genève, appelé par Guillaume Farel. Alors, un petit mot, parce que ce n'est pas un des grands, mais quand même, Guillaume Farel est un Français aussi, qui est né à Gap, et qui a réformé, lui, une partie du Dauphiné, et puis il est allé après dans le pays de Vaud, dans le canton de Vaud. C'est lui qui appelle Calvin à Genève. Et Calvin, lui, pense qu'il va réformer tout de suite la ville. Et les responsables politiques de la ville en ont assez, finalement, et chassent Calvin. Et Calvin se réfugie à Strasbourg, où il reste 4 ans quand même, de manière assez longue. Et finalement, on le rappelle à Genève, parce que c'est un homme tellement extraordinaire. Donc il revient à Genève, il y mourra, il restera, je crois, 23 ans à Genève. Alors, au fond, j'ai dit à propos de Luther que sa question c'était « Mais comment puis-je être sauvé ?» Et pour résumer, on pourrait dire que la question de Calvin, c'est « Comment puis-je honorer Dieu et le servir ?» Et au fond, c'était ça la grande question, c'était « Dieu est plus grand que les conciles, que le pape, que l'Église visible, que les sacrements, pas que la Bible, mais Dieu est plus grand. » Et c'est lui qu'il faut essayer de trouver, d'honorer et de servir. Ça, c'était sa grande question. Le deuxième gros travail de Calvin, ça a été de former, pas de déformer, mais de former un peu les esprits, c'est-à-dire d'apprendre à lire, ce qu'avait fait déjà Luther. Hein, il avait créé des écoles pour qu'on apprenne à lire, pour lire la Bible. Ce qu'a fait aussi Calvin, mais lui, il est allé plus loin, ce n'était pas seulement des écoles primaires, puisqu'il a créé carrément une académie. Donc son souci, c'était de faire découvrir, comprendre, aimer le texte biblique. Et d'ailleurs, je crois qu'il prêchait quasiment tous les jours à Genève. Vous me direz, il n'y avait pas la télévision à l'époque. Enfin, quand même, ça devait être un peu dur. Et son idée aussi, c'était qu'il fallait organiser la ville de Genève comme presque une nouvelle Jérusalem, une cité idéale. Alors, je crois que c'était pas toujours drôle de vivre à Genève sous Calvin, mais c'était peut-être mieux que de vivre sans loi, sans règles.
Alors, qu'est-ce que Calvin introduit comme changement majeur, par exemple, pour ce qui a trait au sacrement ?
Oui, alors il y a des changements, puisque c'est donc 30 ans, presque 30 ans plus tard que Calvin intervient. Donc, lui, son souci, c'est de créer des églises, parce que Luther ne pensait pas à créer une église. Il était fils de l'église catholique. Donc, c'est un peu forcé par les événements qu'il a été... Il n'a pas créé d'église au sens propre du terme, mais il a réorganisé un peu la liturgie des villes qui étaient protestantes. Est-ce que le souci de Calvin, c'était de créer des églises, d'organiser des églises, de dresser, comme on disait à l'époque, des églises. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait dresser les premières églises réformées en France, en 1559, je crois. La première église a été dressée par Calvin.
Calvin ne reconnaît plus que deux sacrements, n'est-ce
alors,
pas ?
Oui, c'était... Alors, Luther a beaucoup hésité. Il reconnaissait le baptême et la Sainte Cène, l'Eucharistie, si l'on veut. Et il a hésité sur la pénitence. Il trouvait que c'était un sacrement important. Mais il l'a abandonné assez vite. Alors, tandis que Calvin, lui, il avait une règle assez simple. Est-ce que ce qui existe comme rite dans l'Église est conforme à l'Écriture ? Est-ce que le baptême y est mentionné ? Bien sûr, Jésus lui-même a été baptisé. Est-ce que la scène y est mentionnée ? Bien sûr, c'est le dernier repas de Jésus. Est-ce que tout le reste est mentionné ? Non. Donc, on s'arrêtera à deux sacrements. Et pour lui, le sacrement, j'aime bien sa définition, il disait que le sacrement, c'est le signe visible d'une grâce invisible. Alors effectivement, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une différence, mais lui, il a formalisé davantage les choses que Calvin et il a mis une grande insistance sur la prédication, peut-être encore plus grande que Luther, car Luther, au fond, ne voulait pas tellement réformer le déroulement de la messe. Il y était à l'aise, c'est ce qu'il connaissait, et donc il l'a peu transformé. Et d'ailleurs, si l'on va dans les pays scandinaves, par exemple en Suède, donc église luthérienne, et qu'on ne sache pas où l'on est, on peut se dire « Tiens, je suis dans une église catholique », car les signes extérieurs ont l'air d'être catholiques, et ils le sont en partie, si je puis dire. Tandis que Calvin dit non. Ce qui est important, c'est la prédication de la parole. La prédication de la parole, les sacrements, ça peut aider, mais il ne faut pas en abuser. Alors, le baptême, oui, puisqu'il faut baptiser les enfants, mais la Sainte Cène, lui, il avait dit trois fois par an. Hein, parce que si on la prend tous les jours, on ne sait même plus de quoi il s'agit, ce qui se passe. Donc voilà, il a au fond beaucoup déritualisé la célébration du culte religieux, ce qui le différencie de Luther, certainement. Beaucoup d'autres choses, il était moins attaché aux images. Luther pensait que l'image, ça pouvait aider à comprendre, à faire comprendre les mystères de la foi au peuple qui ne savait pas toujours lire. Luther était musicien. Calvin disait d'accord pour la musique, mais alors on ne chante que des psaumes, hein, parce que ça c'est dans la Bible. Les petites chansonnettes, non. Les psaumes, on veut bien, et d'ailleurs Clément Marot a traduit avec Théodore de Bèze les 150 psaumes de la Bible en vers qui ont été mis en musique par des grands compositeurs. Voilà, donc il y avait des différences d'attitude, mais aussi parce qu'on était 30 ans plus tard, que les choses s'étaient beaucoup durcies en Europe, hein. C'était vraiment, on s'affrontait catholiques et protestants par pouvoir politique interposé, et donc lui, il voulait que les choses durent, il voulait installer des églises qui durent, et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il y a toujours des protestants aujourd'hui.
Alors, ce qui les réunissait avec Luther, c'était sola scriptura, sola fide et sola gratia. Vous pourriez nous expliquer ?
Voilà, parce que les protestants parlent encore un peu latin. Et en effet, alors c'était sous Calvin, un peu Luther, surtout Calvin, en effet, il y avait ce qu'on appelle les grands principes de la réforme. Et on dit donc l'écriture seule. Pourquoi on dit seule ? Parce que du temps de Luther encore, on disait la Bible c'est bien, mais il faut qu'elle soit interprétée. Par la tradition, ce qu'on a toujours dit sûr. Donc c'était la Bible et quelque chose. Là, non, c'est la Bible seule. On dit la foi seule. Pourquoi la foi seule ? Eh bien, parce qu'avant, on disait c'est la foi, mais aussi nos bonnes œuvres. Si on fait des bonnes actions, on a quand même plus de chances d'être du bon côté de Dieu. Non, les réformateurs ont dit la foi seule. Ensuite, on a dit la grâce. Ah oui, on disait la grâce aussi avant Luther. Mais on disait la grâce, bien sûr, mais la nature humaine, ça compte aussi. Hein. On est un peu co-auteur de notre salut. Ah, les réformateurs ont dit non, la grâce seule. Nous, on n'y est pour rien. Ils ont peut-être tort. Voilà. Et puis, il y a un quatrième élément très important qui explique le mot réforme. On disait Ecclesia semper reformanda. L'Église doit toujours se réformer. Toujours se réformer. C'est ce qu'on a essayé d'appliquer dans notre religion protestante, mais je crois aussi le catholicisme, qui a fait son concile de Trente également au XVIe siècle pour réagir contre la réforme. On appelait ça la contre-réforme, mais ça a été bel et bien une grande réforme de l'Église catholique. Et qu'est-ce que Vatican II, si ce n'est une réforme de l'Église catholique ?
La prédestination, c'était une spécialité de notre ami Calvin ?
Oui, mais c'était c'était un concept qui n'était pas du tout étranger à l'époque et à la réflexion théologique. Mais Calvin, lui, son souci, je le disais tout à l'heure, c'était comment servir Dieu et l'honorer ? Parce que Dieu est tout-puissant, il nous dépasse en intelligence, en savoir et en pouvoir. Et donc, lorsqu'on dit que l'homme peut faire son salut, ça veut dire qu'on se met à la place de Dieu. Et Calvin a dit non. D'ailleurs, on ne fait pas du tout son salut. La preuve, c'est que c'est Dieu qui nous prédestine au salut. Il a même parlé d'une double prédestination. On est prédestiné au salut, on est prédestiné à la damnation. Mais on ne le sait pas. Et comme on ne le sait pas, eh bien, il faut passer sa vie à servir et à honorer Dieu, gratuitement.
Claudette Marquet, c'est sur cette belle parole que nous allons vous quitter. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine émission des mots sur le protestantisme. Au revoir.
Au revoir.